J'ai une question ici.
Allez-y, chérie.
Vous parlez d'une notion de liberté dans l'islam, alors que l'islam a également une notion de soumission. Alors, quel lien y a-t-il entre les deux? Quel divorce y a-t-il entre les deux?
Je parle de la liberté individuelle, pourtant, dans le cadre, si vous voulez, de l'émergence d'un sujet politique qui s'autodéfinit comme tel. Il y a une suggestion, en effet, mais attention, le mot islam ne veut pas dire soumission. Ou alors, on va adopter soumission flagrant. C'est-à-dire qu'il y a une notion de choix, de liberté dans la soumission que j'accorde au seul Dieu. C'est-à-dire que, inversement, contrairement aux autres religions, nous, on ne vénère pas le prophète. Le prophète est un homme, un messager, un transmetteur. On vénère Dieu. C'est d'ailleurs anti-musulman de vénérer un homme plus si prophète. C'est Dieu qu'on vénère, c'est vers Dieu qu'on prie, et seul Dieu nous intéresse. Le prophète est très important dans le panthéon, évidemment, de parce qu'il dit, il connaît des hommes, c'est par un bon des hommes, mais il est qu'un homme, il lui-même dit, je suis qu'un homme. Nous, on vénère Allah, on vénère pas le prophète. Du coup, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas assimiler, vous ne pouvez pas rêver l'islam à juste la suggestion, dès lors que nous ne sommes pas soumis à des êtres humains. D'ailleurs, c'est un peu pourquoi nous n'avons pas de clergé. Parce que ça voudrait dire que l'islam passe par le clergé, par le prêchement d'un homme, quelle que soit la grandeur de cet homme. Et donc, soit nous aimerons Allah, Dieu tout seul, et sans intermédiaire, donc on n'est pas soumis. Moi, je n'ai jamais entendu le mot islam comme étant une soumission. Mais la traduction en français, réduit la définition un peu les choses pour les rendre transmissibles, etc.
Monsieur, quelle pourrait être l'articulation entre le Coran, la nation et la puissance économique pour retrouver la renaissance des pays arabes? Parce qu'on a un truc depuis la bataille de Lépan, donc les pays arabes ont tenu une.
Ils ont échoué là avant, donc 1492 avant Lépan.
Et alors,
Lépan
voilà,
a consacré les
chefs. Ce qui se passe au Sahel, finalement, ce qu'on veut, c'est des gens qui veulent retrouver une unité nationale, une cohésion par la religion, et puis après c'est aussi une...
Attendez, ce qui se passe au Sahel, ce sont les gens. Qui sont ces gens? Vous parlez de qui?
Je ne sais pas, mais c'est...
Vous parlez des Maliens?
Que ce soit les Touaregs, les Bujao, les Salafis, tout ça, mais il y a quelque part derrière une volonté de retrouver une dignité perdue.
C'est possible.
Alors comment on peut articuler donc, le retour à des nations de prospères?
C'est possible, en tout cas, concernant ces groupes-là. c'est la méthodologie qu'ils ont choisi. Si vous croyez qu'on va retrouver de la dignité, même que l'islam, la grandeur de l'islam passé, en tuant les gens qui vont donner, là, personne ne sera d'accord avec eux. L'islam doit être vu comme une conciliation. En permanence, vous êtes dans la conciliation, dans le compromis, dans l'écoute, dans l'échange. Vous ne pouvez pas imposer. Si vous êtes un musulman sincère, vous ne pouvez pas imposer. Et là, pour le coup, moi, je doute de leur sincérité de musulman. Et je doute même que même se pensent comme musulmans. Ils se pensent comme idéologues musulmans. Ils se pensent comme peut-être les sauveurs de l'humanité et de l'islam en particulier, peut-être. Et les sauveurs par les musulmans. Un musulman ne peut pas faire la guerre à un musulman qui est un autre frère. Pas plus d'ailleurs qu'un chrétien ou un juif. Ce sont des gens bibliques, ce sont des gens consacrés par le Coran. Et même pas un être humain au sens large du terme. Et je dirais même, dans une théologie pas encore renouvelée, je dirais que même la violence qu'on fait de manière rituelle aux animaux, qu'on réfléchit aux animaux. Et je me demande même si c'est totalement compatible, si vous voulez, avec l'idée de l'islam. Donc, mais en tout cas, pas d'agressivité vis-à-vis. Et encore moins d'aller jusqu'à la mort, évidemment. Par exemple, pourquoi on aurait pu, dans les jeux depuis toujours, la notion de tatouage mis à mort. Quand on dit que quelqu'un a fait une tatouage mis à mort contre un écrivain. Ou contre un écrivain, contre tout ce que vous voulez, même quelqu'un qui a incité l'islam. De quel droit un être humain décrète la mort d'un autre être humain? Ça, je refuse ça totalement. Je dis que si les musulmans ne refusent pas ça, ils ont baptisé le visage, ou alors ils n'ont pas la connaissance nécessaire, en tout cas pas la foi nécessaire. Quelqu'un qui a la foi, il défend l'image, l'idée, l'homme de sa religion. S'il ne la défend pas, qu'il est complice, ou qu'il est lâche, ou qu'il est ignorant. Et c'est vrai qu'il y a un pacte d'ignorance très important qui est posé actuellement sur un certain nombre de gens. Ces gens-là ne représentent plus l'islam qui se produit.
dans l'islam, il n'y a pas de clergé. Et effectivement, le contraire de des religions chrétiennes les juifs, effectivement, en islam, il n'y a pas de clergé.
Est-ce que plus compliqué... Le chéléchi, quand même.
À part le chéléchi, d'accord.
Il y a évanoui.
8% de la communauté musulmane. Est-ce que le plus grand tort de l'islam aujourd'hui, c'est pas d'avoir créé ce clergé, puisqu'aujourd'hui, eh bien, on importe des imams d'Algérie ou d'Anatolie.
Quel clergé ?
Vous avez parlé des imams aujourd'hui, n'importe qui, peu qu'ils connaissent les 60 parties du Coran par cœur, oui. Eh bien, se proclame imam, oui. et donne sa version.
Oui, à condition, j'ai rajouté avant, je ne l'ai pas dit formellement par les mots, mais je l'ai rajouté dans la tête, à condition qu'ils soient consacrés par leur communauté immédiate, par leurs soins. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une mosquée avec tout seul. La mosquée, par définition, est collective. Et c'est un lieu collectif.
Oui, mais c'est bien là le problème. Puisque justement, aujourd'hui, on a, je vous répète, le premier analphabet venu pour peu qu'il sache les 60 parties du Coran, eh bien, bah, pour peu qu'il laisse un petit cours autour de lui, va se revendiquer imam, va donner sa version, sa lecture de l'islam, alors que vous l'avez dit au départ, mais à juste raison, l'islam c'est une religion individuelle. Moi, en tant que musulman, je n'ai qu'un seul juge, c'est mon créateur, et je n'ai à me fier à aucune autre parole.
Oui, mais parce que vous avez peut-être la culture nécessaire. On ne peut pas non plus demander, moi je ne peux pas le clergé, ça c'est clair. L'imam, il est reconnu par quelques croyances formées pour lui, c'est un bon imam, et qu'il acquiert l'adhésion pour la raison de ses pères, autour de lui. Mais dans tous les cas de figure, je vous dis encore une fois, peut-être qu'il y a des gens, des consciences qui ont besoin d'intermédiaires, mais ces intermédiaires n'ont pas vocation à leur imposer quoi que ce soit. Je parle de ça en tout cas. Et je plaide pour l'émergence d'un croyant authentique et qui est, si vous voulez, autonome dans sa culture et sa connaissance. Évidemment, si quelqu'un ne connaît rien du Coran ou de l'Islam, il est obligé de suivre quelqu'un de plus savant. D'ailleurs, il y a un critère comme ça. Vous êtes dans un groupe, vous êtes en vacances, vous voyagez ensemble, vous êtes musulmans, et il n'y a pas d'imam entre vous. L'imam, celui qui aura le plus de connaissances dans le domaine religieux, qui sera l'imam qui conduira la prière. Ça générerait comme ça. Mais cet imam-là ne peut pas s'arroger des droits régaliens d'une institution comme le clergé catholique ou comme la structure théologique chez les juifs. Parce que l'islam est une religion du lien direct du croyant avec Dieu. Encore faut-il évidemment que le croyant connaisse un peu un petit bout de sa religion, parce que sinon il adhère à n'importe quel Dieu, et ça reviendrait à une sorte d'anarchie identique.
Entre l'islam que vous présentez, l'islam des Lumières, et l'image qui est donnée de l'islam à la fois dans les médias, dans les mouvements islamophobes qu'il y a dans toute l'Europe et au-delà, et également par certains États très réactionnaires, mais qui sont en même temps les alliés de l'Occident, comme l'Arabie Saoudite par exemple, on peut dire qu'il y a un sacré fossé. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour que... parce que je pense en plus que les musulmans, ils sont probablement plus de votre côté que parmi ceux qu'on exhibe, n'est-ce pas, et qui sont effectivement les gens comme au Mali qui détruisent les marabouts, etc. Bon, mais alors comment est-ce qu'on peut faire pour, en somme, rétablir la vérité quoi, de l'islam qui est déjà en train de se réformer sous nos yeux, mais qu'on ne voit pas dans les médias?
Vous avez tout à fait raison. Comment on peut faire? Il y a différents moyens, évidemment. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai fait allusion très rapidement, un pacte de l'ignorance. Moi, je fais un pacte de la connaissance, avec vous, qui m'écoutez ici. Un pacte de la connaissance. Et je viens plus loin. Je m'appelle à une sorte de concile de paix, concile de la paix au sein de l'islam, qui réunit l'ensemble des théologiens musulmans, qui proposerait au monde un islam de paix, exactement l'islam authentique qu'on connaît. C'est un travail, si vous voulez, c'est un combat des idées. C'est un combat des idées. On nous montre un islam possible, un islam dangereux, un islam délicieux, un islam qui est synonyme de mort, synonyme de négation, synonyme de contradiction avec le reste de la planète. Moi, je vous dis, l'islam que j'aime, et qui est celui de la plupart des musulmans, me semble-t-il, 90% des musulmans sont des gens pacifiques, qui rentrent chez eux, comme tout le monde ici. quelques musulmans ici qui sont tout à fait sincères et pacifiques. Ils sont majoritaires, très nettement majoritaires. Évidemment, comme on n'a pas de clergé et comme on n'a que des États très longs qui gouvernent et souvent peu enclins à ouvrir le champ de la diversité politique et de la diversité des attitudes, et encore moins des élections libres et indépendantes, évidemment, on n'a pas cette vision-là. Moi, tout l'intérieur, je le vois. Je le vois. J'ai pour moi, si vous voulez, pour légitimer mon propos, une trentaine d'années de pratique de cet islam. Je voyage dans le monde entier. J'ai donné des cours un peu partout. Et je fais le tour de France tous les mois, pratiquement actuellement. Tous les mois, je fais un tour de France. Je ne parle que pour la France, mais je vais en Afrique, je vais au Proche-Orient, je voyage pratiquement dans le monde entier. Et je les rencontre les deux mois. Je les rencontre. Ce n'est pas des mosquées, bien sûr. C'est des gens libres. Il n'y a aucune prêche, aucune conversion à l'islam possible. Mais en même temps, je vois qu'il y a une aspiration à la paix. Comment on fait, c'est de dénoncer déjà l'islam fondamentaliste, de s'en écarter, de faire ce que nous faisons, c'est-à-dire les théologiens, les penseurs, les intellectuels, les journalistes, les voyageurs, les gens qui ont des connaissances, les gens curieux, les gens qui ont des savoirs. Et tout c'est ça la communauté. La vraie communauté de cœur et d'esprit, c'est elle est là, devant nous. Mais combien sommes-nous par rapport à l'ensemble des gens qui ont signé le pacte de l'ignorance. Il y a des gens, vous leur dites rentrer dans cette librairie, vous lui dites ouvrez un livre, Iqra, comme dit le Coran. Le premier mot du Coran, c'est Li, L-I-S, Iqra, Li. Voilà, c'est un appel à l'ouverture quand même. Combien de gens ont signé un pacte avec l'ignorance? Vous dites ouvrez le livre, non, je ne veux pas ouvrir le livre de peur de savoir. Il y a la peur de savoir. Ces gens-là, comment vous devez. Comme je prêche la paix, je prêche la tolérance, je ne veux pas les pastorer pour leur dire que vous êtes des mécréants. Vous ne voulez pas lire, pas forcément mes livres, mais ouvrez n'importe quel livre. C'est déjà un projet de vie, un projet civilisationnel. C'est par là qu'on va. Et surtout ne pas les imiter dans ces équipés mortifères qui sont sinistres. Et puis au-delà, je pense que d'une certaine manière, les musulmans, ils en ont plus d'autres, au fond. Il y a une sagesse dans la population musulmane, au sens large, qui en a vu d'autres. Et Moujaoud, et Akhmi, et tout, les Al-Qaïda, tout ça, ce sont comme un peu des brigades rouges, si vous voulez. Ça a un temps, vous savez, ça a un temps, avec le radio, on en a parlé, ça a un temps, une durée excessive de jeunesse, et puis une adolescence, et la vie, et ça disparaît plus doucement. Ils ne disparaissent pas eux-mêmes, les musulmans sincères, les chrétiens sincères, les juifs sincères, les athées sincères, ceux-là, ils vont sur la longue durée, ils n'ont rien à prouver. Donc c'est tout un travail, là encore, malheureusement, vous pouvez nous dire, mais vous n'êtes pas nombreux à le faire. Et je dis, on n'est pas nombreux actifs à le dire publiquement, il y a beaucoup de gens qui ne font pas le cœur.
On précise que le train n'attendra pas, et par conséquent, il reste pour une question encore. C'est une réponse.
C'est un peu hors sujet, mais c'est à Malek Chalet de l'Algérien, je m'adresse aussi. Les rapports entre la France et l'Algérie, c'est un peu, je t'aime, moi non plus, et pourtant ce sont des rapports très forts. Et entre les Français et les Algériens, je ne parle pas des rapports d'État, je parle des rapports humains. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors, les rapports entre Algérie et France, France-Algérie, je ne sais pas dans quel sens il faut dire, rapport humain très compliqué, contextuel, contrasté. Rapport d'amour et de la haine, de passion. C'est à l'image de ces deux peuples, de ces deux personnalités collectives, sans compter que, si vous voulez, la France est restée suffisamment longtemps là-bas, mais elle a fait la souche par certains aspects en Algérie, pour qu'il n'y ait plus de divorce possible, de divorce en tout cas pacifique possible. Il se trouve que le déroulement, si vous voulez, de l'histoire qui s'est produit entre ces deux pays en 1962 a été trop brutal pour permettre aux consciences d'un certain nombre de gens qui ont souffert dans leur chair la présence ou l'absence de le départ de ce pays pour s'apaiser. On est à la première génération et on a exactement les mêmes tensions, les mêmes émotions. Le nombre de gens qui reviennent là-bas, les pays noirs qui reviennent en Algérie, et qui sont subjugués par la lumière qu'ils ont laissée derrière. Donc, quand on est dans cette lumière-là, quand on est dans la lumière d'Alger, la lumière d'Oran, c'est difficile de l'oublier. Et donc là, ce point mentionné, évidemment, c'est quelque chose d'ingérable, c'est tellement difficile de m'entendre. Pour le reste, on peut en politique, il n'y a pas des hypocrites qui fonctionnent contre tout. En scène, tant qu'on a un intérêt immédiat à partager, pour le reste, il suffit qu'il y ait un nouvel accroche, il suffit que les esprits s'en vont. Mais là encore, les Algériens et les Français, je peux dire, ils ont une sagesse qui dépasse largement les politiques ponctuelles pratiquées par leurs souverains respectifs, les uns sont difficiles, les autres le sont un peu moins, et qui donnent une vision biseautée un peu de formation. Mais je suis persuadé, j'ai dit une fois que si par la grâce de Dieu un jour, nous arrivions, parce que à nous réunir différemment sur un pacte républicain, qui fait que nous soyons solidaires de vivre jusqu'à la racine. C'est un peu le projet qu'on a fou au départ, mais qui est visionnaire un peu. Fou au départ, mais mal agencé, mal compliqué, etc. Nous ferions, entre Algériens et Français, un bloc humain de 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants, ça suppose immédiatement que nous devenions la première puissance européenne. Ah oui, la première puissance européenne, déjà. Et on va évidemment privatiser la petite maritime qui est entre nous deux. On va faire un péage à manger. On va faire un péage à main. Ceux qui sortent payent un argent fou pour pouvoir traverser la Méditerranée. On s'est riche de notre pétrole, de notre Méditerranée, de notre puissance créative, de nos usines, de nos champs de blé, de nos champs de vigne. Et on sait peut-être que le peuple, l'un des peuples les plus respectés au monde, par la puissance et par la créativité, génie. Pourquoi pas? C'est peut-être le futur qui nous attend. C'est ce futur-là, prospère, qui nous attend. Pour ça,
bien. D'être justement humanité et